Chapitre 12. Le polynectar. Le professeur McGonagall frappa à la porte qui s'ouvrit silencieusement. Lorsqu'ils l'eurent franchi, McGonagall ordonna à Harry de l'attendre et le laissa seul. Harry jeta un coup d'œil autour de lui. De tous les bureaux de professeurs qu'il avait eu l'occasion de visiter cette année, celui de Dumbledore était de loin le plus intéressant. S'il n'avait pas eu si peur d'être renvoyé, il aurait eu plaisir à se trouver là. C'était une belle et grande pièce circulaire pleine de petits bruits bizarres. Posée sur des tables, d'étranges instruments en argent bourdonnaient en émettant de petits nuages de fumée. Les murs étaient recouverts de portraits d'anciens directeurs et directrices qui somnolaient tranquillement dans leur cadre. Il y avait également un énorme bureau au pied en forme de serre et derrière, sur une étagère, un chapeau pointu, usé et rapiécé. Le chapeau magique. Harry hésita. Il jeta un regard prudent aux sorcières et aux sorciers qui dormaient sur les murs. Quel mal y aurait-il à prendre le chapeau et à le coiffer une nouvelle fois? Simplement pour essayer, pour avoir la confirmation qu'il l'avait bien envoyé dans la maison qui lui convenait. Il contourna le bureau sans faire de bruit et prit délicatement le chapeau qu'il posa doucement sur sa tête. Il était beaucoup trop grand et lui glissa devant les yeux, comme la première fois qu'il l'avait mis. Plongé dans le noir, Harry attendit. Une petite voix lui parla alors à l'oreille.
« Quelque chose qui te trotte dans la tête. »«
Oui. Désolé de te déranger, je voulais savoir... »«
Tu te demandes si je t'ai envoyé dans la bonne maison. Il est vrai que le choix était difficile, mais je maintiens ce que j'ai dit. »
Harry sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine.
« Je maintiens ce que j'ai dit. Tu aurais eu parfaitement ta place chez les Serpentards. »
L'estomac de Harry se contracta. Il attrapa le chapeau par la pointe et l'enleva. Ce n'était plus qu'un misérable vieux chapeau qui pendait entre ses doigts. Pris d'une sorte de nausée, Harry le reposa sur son étagère. « Tu as tort, » dit-il à haute voix en s'adressant au chapeau immobile et silencieux. Le chapeau ne bougea pas. Harry fit un pas en arrière et le regarda. Un étrange caquettement comme une sorte d'éructation retentit alors derrière lui. Il se retourna et s'aperçut qu'il n'était pas tout seul. Debout sur un perchoir en or posé derrière la porte, il vit un oiseau d'aspect misérable qui avait l'air d'une dinde à moitié plumée. L'oiseau jeta à Harry un regard mauvais en lançant à nouveau son caquettement. L'animal avait l'air très malade. Il avait le regard vitreux et Harry vit tomber deux de ses plumes. Dans sa situation, Harry n'avait vraiment pas envie qu'en plus l'oiseau de Dumbledore meure en sa présence. À peine avait-il eu cette pensée que l'oiseau s'embrasa soudain dans un jaillissement de flammes. Harry laissa échapper un cri d'horreur et recula en se cognant contre le bureau. Il regarda fébrilement autour de lui en quête d'un verre d'eau, mais ne trouva rien. Pendant ce temps, l'oiseau s'était transformé en une véritable boule de feu. L'animal poussa un cri perçant et bientôt il ne resta plus de lui qu'un petit tas de cendres fumantes tombées sur le sol. La porte du bureau s'ouvrit et Dumbledore entra, l'air très sombre.
« Professeur, balbutia Harry, votre oiseau, j'ai rien pu faire, il a pris feu. »
À la grande surprise de Harry, Dumbledore sourit.
« Le moment était venu, il avait une mine épouvantable ces derniers temps, je lui ai dit qu'il fallait faire quelque chose, oui. »
Le visage stupéfait de Harry le fit glousser de rire.
« Oui, une fume sec est un phénix, Harry. Au moment de leur mort, les phénix s'enflamment et ils renaissent ensuite de leurs cendres. Regarde. »
Harry vit alors un minuscule oisillon tout fripé sortir sa tête au milieu du tas de cendres. Il était tout aussi laid que le vieil oiseau.
« C'est dommage que tu l'aies vu le jour de sa combustion, »
dit Dumbledore en s'asseyant derrière son bureau.
« La plupart du temps, il est très joli, avec un magnifique plumage rouge et or. Les phénix sont des créatures fascinantes. Ils peuvent transporter des charges très lourdes. Leurs larmes ont de grands pouvoirs de guérison et ils sont très fidèles. »
Le spectacle de fume sec consumé par les flammes avait fait oublier à Harry la raison pour laquelle il se trouvait là. Mais tout lui revint en mémoire lorsque Dumbledore, installé dans son grand fauteuil directorial, le regarda de ses yeux perçants. Mais avant que Dumbledore ait eu le temps de prononcer le moindre mot, la porte du bureau s'ouvrit à la volée et Hagrid surgit dans la pièce, le regard flamboyant, son passe-montagne relevé sur ses cheveux hirsutes et tenant toujours le coq mort à la main.
« Ce n'est pas Harry qui a fait ça, professeur Dumbledore !»
dit précipitamment Hagrid.
J'ai parlé avec lui quelques secondes avant qu'on ne découvre ce malheureux garçon. Il n'aurait jamais eu le temps. »
Dumbledore essaya de dire quelque chose, mais Hagrid continua de tempêter en faisant des moulinets avec son coq qui répandait des plumes un peu partout dans le bureau.
« C'est impossible, ça peut pas être lui. Je suis prêt à le jurer devant le ministre de la magie en personne s'il le faut.
Hagrid,
ce n'est pas lui le coupable. Je sais bien que Harry n'aurait jamais...
Hagrid !» s'exclama Dumbledore. « Je ne crois pas que Harry soit l'auteur de ces agressions. »
« Oh !»
dit Hagrid en laissant retomber le coq le long de son flanc.
« Dans ce cas, j'attendrai dehors, monsieur le directeur. »
Et il sortit du bureau, l'air embarrassé.
« Vous ne me croyez pas coupable ?» demanda Harry, plein d'espoir, tandis que Dumbledore débarrassait de son bureau les plumes de coq qui y étaient tombées.
« Non, Harry, je ne le crois pas. »
dit Dumbledore, l'air toujours aussi sombre.
« Mais je veux quand même te parler. »
Inquiet, Harry attendit. Dumbledore l'observait en silence, les mains jointes en accent circonflexe.
« Je voudrais savoir, Harry, s'il y a quelque chose qui te tracasse et dont tu voudrais me faire part, quel que soit le sujet. »
Harry ne savait pas quoi répondre. Il pensa au cri de Malfoy. « Bientôt ce sera le tour des sangs de Bourbe. » et au polynectar qui bouillonnait dans les toilettes de Mimi Géniard. Mais il pensa à la voix désincarnée qu'il avait entendue à deux reprises et se souvint ce que Ron lui avait dit.
« Entendre des voix, c'est pas bon signe, même si c'est les sorciers. »
Il pensa aussi à ce que tout le monde disait de lui, à sa crainte grandissante d'être lié d'une manière ou d'une autre à Salazar Serpentard. Alors Harry répondit « Non, professeur, il n'y a rien. » La double agression contre Justin et Nick quasi sans tête, transforma le sentiment de malaise qui régnait jusqu'alors en une véritable panique. Étrangement, c'était le sort de Nick qui semblait inquiéter le plus les élèves. Qui donc pouvait faire subir un tel traitement à un fantôme, se demandait-on. Qui avait le terrible pouvoir de faire du mal à quelqu'un qui était déjà mort? Il y eut une véritable ruée sur les réservations du Poudlard Express qui devait ramener les élèves chez eux pour les vacances de Noël.
« À ce rythme-là, il ne restera bientôt que nous, » dit Ron à Harry et Hermione.
« Nous, Malfoy, Crabbe et Goyle, joyeuses vacances en perspective. » Crabbe et Goyle, qui faisaient toujours la même chose que Malfoy, avaient inscrit leur nom dans la liste des élèves qui souhaitaient rester au château pour les vacances. Mais Harry était content que les autres s'en aillent. Il en avait assez de voir tout le monde léviter dans les couloirs, comme s'il s'apprêtait à cracher du venin. Il en avait assez d'entendre murmurer sur son passage et de sentir sans cesse les doigts pointés sur lui. Fred et George étaient les seuls à trouver la situation très drôle. Souvent, ils s'amusaient à précéder Harry lorsqu'il marchait dans les couloirs en criant « Faites place à l'héritier de Serpentard! Attention, sorcier très dangereux !» Percy, bien sûr, désapprouvait fermement leur conduite.
« Ce n'est pas un sujet de plaisanterie, » disait-il avec froideur.
« Dégage, Percy !» répliquait Fred. « Harry est pressé. Il doit se rendre dans la chambre des secrets pour y prendre le thé avec son serpent préféré. »
Ginny non plus ne goûtait pas à la plaisanterie. « Arrêtez !» gémissait-elle lorsque Fred demandait à Harry d'une voix sonore à qui il comptait s'en prendre la prochaine fois, ou que George faisait semblant de vouloir écarter Harry en brandissant une grosse tête d'ail. Harry ne s'offensait pas de ces facéties. Il était même rassuré de voir que Fred et George trouvaient parfaitement ridicule qu'on puisse le soupçonner d'être l'héritier de Serpentard. En revanche, leur farce répétée semblait exaspérer Drago Malfoy qui se montrait chaque fois un peu plus irrité.
« C'est parce qu'il brûle de dire que c'est lui l'héritier, » dit Ron d'un air entendu. « Tu sais à quel point il a horreur que quelqu'un le surpasse en quoi que ce soit, et comme c'est à toi qu'on attribue ses horreurs,
ça durera pas longtemps, » assura Hermione d'un ton satisfait. « Le polynectar est presque prêt. » On va très bientôt faire avouer la vérité à Malfoy. »
Le trimestre se termina enfin et un silence aussi épais que la neige qui recouvrait le sol s'abattit sur le château. Harry n'en était pas fâché. Les Weasley, Hermione et lui avaient la tour de Gryffondor pour eux tout seuls et pouvaient faire ce qu'ils voulaient, y compris du bruit, sans déranger personne. Fred, George et Ginny avaient choisi de rester à l'école plutôt que d'aller voir Bill en Égypte en compagnie de monsieur et madame Weasley. Percy, lui, ne passait guère de temps dans la salle commune de Gryffondor. Il avait expliqué d'un air solennel qu'il préférait demeurer au château pendant les vacances parce qu'il était de son devoir, en tant que préfet, d'apporter son soutien aux professeurs pendant cette période troublée. Le matin de Noël, froid et blanchi par la neige, Harry et Ron, restés seuls dans leur dortoir, furent réveillés de bonne heure par Hermione,
qui entra en trombe.
« Debout !»
lança-t-elle d'une voix forte en tirant les rideaux de la fenêtre.
« Hermione, tu n'as rien à faire ici, c'est réservé aux garçons !»
protesta Ron, une main sur les yeux pour se protéger de la lumière du jour.
« Toi aussi, joyeux Noël !» répondit Hermione en lui jetant le cadeau qu'elle lui avait apporté. « Ça fait une heure que je suis levée, j'ai rajouté des chrysopes dans la potion, elle est prête maintenant !»
Harry se redressa complètement réveillé.
« Tu es sûr ?»« Absolument certaine !» dit Hermione en repoussant Croutard pour pouvoir s'asseoir sur le lit à baldaquin. « Si nous devons agir, il faudrait que ce soit dès ce soir !»
À ce moment, Edwige s'engouffra par la fenêtre ouverte, un petit paquet dans le bec. « Salut !» dit joyeusement Harry tandis qu'elle se posait sur le lit. « Tu n'es plus fâché ?»
Elle lui mordilla affectueusement l'oreille et ce fut pour lui un cadeau beaucoup plus précieux que celui qu'elle lui apportait et qui était envoyé par les Dursley. Il s'agissait d'un cure-dent auquel ils avaient ajouté une lettre pour lui demander s'il lui serait possible de passer également les vacances d'été à Poudlard. Les autres cadeaux que Harry reçut pour Noël étaient beaucoup plus satisfaisants. Hagrid lui avait envoyé une grande boîte de caramel que Harry fit ramollir devant le feu avant de les manger. Ron lui avait donné un livre intitulé « En vol avec les canons », un ouvrage racontant l'histoire de son équipe de Quidditch préférée. Hermione, pour sa part, lui avait apporté une splendide plume d'aigle. Enfin, dans le dernier paquet qui lui était destiné, Harry trouva un pull-over et un gros gâteau que Madame Weasley avait fait spécialement pour lui. Il éprouva aussitôt un sentiment de culpabilité en repensant à la voiture volante que personne n'avait revue depuis sa collision avec le saule cogneur et à tout ce qu'il s'apprêtait à faire d'interdit. Personne, pas même quelqu'un qui redoutait de devoir bientôt absorber du polynectar, n'aurait pu manquer de se réjouir un soir de Noël à Poudlard. La grande salle était magnifiquement décorée. En plus des sapins aux branches couvertes de givre et des guirlandes de gui et de houx qui se croisaient au-dessus des têtes, une neige magique, tiède et sèche, tombait du plafond. Dumbledore chanta quelques cantiques repris par les élèves et par Hagrid, dont la voix devenait de plus en plus tonitruante à mesure que baissait le niveau de son pichet de vin. Percy, qui n'avait pas remarqué que Fred avait ensorcelé son badge de préfet, sur lequel on pouvait lire à présent « Bonnet », ne cessait de leur demander ce qui les faisait ricaner. Harry restait indifférent aux remarques bruyantes et moqueuses que Drago Malfoy faisait sur son pull-over à la table des Serpentards. Avec un peu de chance, il prendrait sa revanche sur Malfoy dans quelques heures.